animateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
On en jase, ton émission d'actualité à Boulevard 102.1 sur l'heure du midi, de midi à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel qui suit de 14 à 18h. Véro Bergeron est de retour de son voyage en Italie. Il sera avec Denis et Audrey le matin. C'est Marceau le matin avec Yannick Marceau, Max Larouche et moi-même, Jeff Fortin. Et le point de Max de 10h à midi avec Catherine Bachand maintenant qui s'est joint à Max Larouche, segment Open Mic, évidemment, 11h. Segment du Pit Stop à 7h55 le matin. Segment du Caucus avec Antonine Iaccarini à midi du lundi au jeudi. Et n'oubliez pas également, on a Marceau le soir de 18h à 19h. Pascal CV, en cette belle après-midi, ensoleillé à 4 degrés à 13h11. Qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Bien, ça donne le goût de rouler avec de la bonne musique, que ça avance, qu'on ne soit pas dans le trafic. Ce ne sera pas trop le scénario pour cet été. Et on nous le rappelle aujourd'hui parce qu'on a d'autres entraves importantes, de pavage, entre autres, partout à prévoir sur la grande région de Québec. C'est un autre gros été de travaux. Un peu tout le monde nous le rapporte, le Journal de Québec et tout ça. Donc, plusieurs chantiers majeurs du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui vont venir s'ajouter à ceux qui avaient déjà été annoncés pour le tramway, donc au plus municipal. Là, pour la rive nord, pour la rive sud du fleuve, les secteurs des ponts de Québec, du pont Pierre-Laporte, tout ça, ça sera fortement impacté par une panoplie de chantiers. On pense aux restaurateurs dans le coin qui en ont déjà arraché là, au niveau de l'automne. On est encore là-dedans. On invite tout le monde à prévoir des déplacements en consultant le Québec 511. On affirme aussi au niveau du MTQ qu'il va y avoir réfection du pont de la route 164 qui enjambe l'autoroute 20 à Charny. Donc, fermeture d'une voie sur deux dans chaque direction. Puis ensuite, les travaux d'interconnexion entre la tête des ponts et le boulevard Laurier à Québec, bien, ça va être deux points chauds très importants. Ralentissement, ça risque d'être un été très, très complexe. Puis il y a d'autres détails qui sont à suivre. On aura plus d'informations. Une nouvelle aussi un peu plate, c'est que dès le 4 mai, le soleil nous apprend que 4 cliniques de proximité qui vont fermer leurs portes sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, qui est somme toute à côté de nous et qui nous donne un angle aussi sur ce qui peut nous arriver. Donc, des patients qui seront dorénavant orphelins, si on veut, vont devoir se rendre à la clinique régionale du centre médical de la Nouvelle-Beauce. Ça, c'est situé à Sainte-Marie. Quand même un bon bout de chemin à faire pour être soigné. C'est le GMS Nouvelle-Beauce qui en a fait l'annonce par voie de communiqué dans les dernières minutes. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec, Ariane Mignolet. On reproche qu'il ait donné des informations à Bernard Drinville, à Christine Fréchette au niveau du programme de l'expérience québécoise PEC et une possible clause de droits acquis pour certains individus. Je vous explique, il y a un article qui s'appelle l'article 17 du Code, dans lequel on dit qu'il n'y a pas de député qui a le droit d'utiliser ou de communiquer des renseignements qu'il obtient dans l'exercice de sa charge pour favoriser peut-être des intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Là, ça se fait dans un regroupement politique habituellement, mais là, on parle d'une course à la chefferie et c'est là le problème.
Au sport, hier soir, au Centre Bell, victoire dramatique du Canadien avec ce but alors qu'il restait 14 secondes pour créer l'égalité.
Lane Hudson qui reprend. Hudson s'avance. Hudson.
Le Canadien s'en sort vivant. Il l'emporte 4-3 sur les Panthers de la Floride en tir de barrage, ce qui fait en sorte que le Canadien de Montréal a 102 points. Pascal, écoute ça. À égalité avec les Sabres de Buffalo et le Lightning de Tampa Bay. Donc, triple égalité au sommet de la division Atlantique. Les Sabres affrontent ce soir les pauvres Rangers de New York, derniers dans l'Est, alors que le Canadien va se mesurer au Lightning de Tampa Bay jeudi au Centre Bell. Ça pourrait être un coup double. Le 50e de Cole Caulfield et la première position de la division pour le Canadien. Et parlant de Montréal, on va aller le rejoindre justement en direct de Montréal, notre chroniqueur hebdomadaire. À chaque mercredi, il est avec nous dans la deuxième heure du show, Lambert Drinville, vulgarisateur d'actualité. Lambert, comment vas-tu?
Salut Jeff, salut Pascal et salut Lane Hudson.
J'ai dit, je vais garder l'extrait God pour mon chum Lambert, c'est sûr qu'il va réagir là-dessus puis qu'il va être heureux.
Ah, ton chum Lambert était bien rivé avec sa copine devant le match hier et hey, sérieux, là. Ils nous font vivre des émotions cette année.
C'est capoté. Ah non, non, vraiment une belle saison pour le Canadien de Montréal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Lambert, toi, es-tu quelqu'un qui a une suite logique dans les idées lorsque tu nous parles? Je pense que oui, là. Tu fais des chroniques avec nous depuis septembre.
Oui,
t'as une suite logique. Écoute, je te fais entendre Marilyn Gladue le 9 février dernier à la Chambre des communes alors qu'elle s'est levée enragée pour parler du premier ministre Mark Carney.
The Honourable Member for Sarnia Lambton, the question.
Madam Speaker, Canada has lost over 5,000 automotive jobs. 32 paper mills have shut down, and in my riding, 3 facilities are shutting down. 51,000 manufacturing jobs have been lost in the year since the Prime Minister took charge. He said he was going to build, baby, build, but the only thing he's built is the highest unemployment rate for youth we've seen in a generation. So will the Prime Minister do what he promised, build at a scale we haven't seen in generations, and work with Conservatives to restore Canada's sovereignty in the face of American threats?
Lambert, si t'avais conseillé un politicien de se lever en chambre puis de planter le premier ministre sur le fait qu'on perd des emplois partout et dont 3 manufactures qui ont fermé dans ta circonscription de Sarnia, est-ce que 2 mois plus tard, tu lui aurais dit « Hein, c'est une bonne idée, mets ton gilet rouge puis va rejoindre Mark! »
Ben, va falloir lui demander à elle. C'est sûr qu'il faudrait lui demander à elle et c'est sûr que, disons, que ça donne l'impression d'avoir des convictions assez flexibles. Je suis d'accord avec toi. Surtout que, tu sais, ça fait 10 ans qu'elle est là, plus que 10 ans élue en 2015. C'est pas juste une conservatrice qui vient d'être élue. Là.
Non,
c'est
non,
une conservatrice qui est là depuis longtemps et qui a été dans un, qui est dans un comté qui est très, très conservateur. Elle a gagné avec au-dessus de 53 % lors de la dernière élection. Elle s'était même présentée dans une course pour devenir la chef du parti. Fait que c'est sûr que ça en dit long sur les convictions de Mme Gladue, mais ça en dit aussi très long, Jeff, sur l'état du caucus conservateur.
Ah, tellement.
Parce que là, après un départ, il y a eu Chris d'Entremont. Après ça, il y a eu Michael Ma, qui, d'ailleurs, on m'informe, n'a pas encore payé son billet là, pour le party de Noël conservateur. Le parti attend encore son remboursement.
Mais il y a eu des billets d'avion payés pour la Chine par Mark Carney. Hein?
Oui, exact, en échange. Il y a Matt Généreux aussi qui a quitté. Et là, Mme Gladue aujourd'hui, puis on entend quand même... il y a beaucoup, beaucoup de gens, là, même moi encore ce matin, là... certains employés sur la colline à Ottawa qui me confirmaient qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait d'autres des transfuges conservateurs vers les libéraux. Ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on doit avoir un débat sur ce genre de transfuge-là. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement agir d'une façon ou d'une autre, mais à tout le moins se poser la question qu'est-ce qu'on fait, là, surtout dans un cas comme ça où elle avait été... où c'est une représentante conservatrice assumée depuis longtemps et élue clairement par ses concitoyens pour représenter le Parti conservateur. Puis, bien honnêtement, il va falloir aussi se demander si ça se poursuit, cette suite de transfuges. Quel est l'avenir là, pour Pierre Poilievre qui... bien qu'il ait reçu une bonne tape dans le dos lors du congrès conservateur juste après les fêtes. Il y avait au-dessus de mémoire, c'était 87 %.
Oui, exactement. Mais là, ça commence à sentir la soupe chaude là, avec le PLC qui va devenir majoritaire. Là.
Ben c'est que ça va pas dans le bon sens. Là. Si tu voyais une certaine croissance ou des signes de lumière, on se dirait, bon, ben... avec Trump qui va éventuellement se calmer puis éventuellement il quittera, peut-être qu'il y a une voie où est-ce que lui peut vraiment se positionner comme étant l'aspirant premier ministre en attente, mais là il est à 30 % d'écart entre lui et Carney au niveau de qui les Canadiens voient comme étant le meilleur candidat pour être premier ministre, et ses députés quittent son caucus, ses plus ardents députés quittent son caucus. Sa directrice des communications, d'ailleurs, à M. Poilievre, a pris ça de la bouche de Dimitri Soudas au Mordu politique, qui a également quitté. C'est pas facile. C'est pas facile. Et de l'autre côté, ben, pour les libéraux, évidemment, là, c'est le parfait bonheur. Et l'enjeu de l'élection partielle en Terrebonne
dans quelques jours, devient soudainement moins importante.
C'est clair. On est en attente d'un point de presse de la Maison-Blanche. On voit ça présentement en direct sur LCN. Donc, on va rester à l'affût de ce point de presse de Donald Trump. Parlant d'un qui est parti, Lambert, c'est François Legault. C'est sa dernière semaine. Et là, il a fait sa petite tournée médiatique d'adieu hier au bilan à LCN et également à Radio-Canada. T'as écouté l'entrevue à Radio-Canada et t'as retenu justement trois extraits pour nous.
Oui, c'est ça. Je vous ai sorti trois extraits que je souhaitais commenter. On sentait, tu sais, sur le total, là, on sentait qu'il était soulagé, qu'il était dans un bel endroit. Je pense qu'il en est venu à l'évidence que la suite se ferait sans lui. Il a pris la bonne décision. Il quitte selon ses propres termes. Il y a eu un show de chauds hommages à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'était très beau de voir ça. Et là, c'est temps pour lui de commencer à faire son bilan. On ne peut pas faire le bilan complet présentement. Il y a des choses dont on n'a pas les réponses sur ce qu'il a fait qui vont prendre quelques années et du recul. Mais déjà, c'était intéressant de revenir sur certains éléments, notamment la première extrait que je t'ai fait ressortir sur ses gains qu'il a fait vis-à-vis le fédéral là, au courant de ses deux mandats.
On l'écoute dans quelques instants.
Êtes-vous allé chercher des gains du fédéral?
Bien, on est allé chercher de l'argent, on est allé chercher une consultation pour la nomination des juges, mais honnêtement, bien, moi, j'ai été déçu que les Québécois fassent pas davantage une priorité du rapatriement des pouvoirs en immigration en votant au fédéral.
Lambert, c'est-tu vraiment à faute des Québécois qui votent rouge au fédéral ou c'est la CAQ en tant que troisième voie qui n'a pas réussi son mandat?
Bien, c'est ça. J'ai trouvé ça spécial quand même parce qu'au fond, ce qu'il dit, c'est qu'il est déçu des... Au fond, si tu résumes un peu le fond de sa pensée, c'est qu'il est déçu que les Québécois n'aient pas voté conservateur considérant leur promesse de donner plus de cordes.
Ouais. Mais en même temps, quand on a élu la CAQ, il y a ça 8 ans, c'est Justin Trudeau, c'est le Parti libéral, c'est le multiculturalisme. Puis on les a justement élus en se disant... Ben, eux autres vont être capables de contrer ça.
Ben, c'était la promesse qu'ils avaient faite. Et rappelle-toi, en 2018, il y avait une liste de 22 promesses, 22 demandes, en fait, au gouvernement fédéral. Et là, quand on lui demande de dresser son bilan, il parle de, bon, certains transferts d'argent. Ben, honnêtement, rappelle-toi, les transferts en santé, c'était des peanuts. L'argent pour le réseau des garderies, ben, on en a déjà un au Québec. Alors, c'est un peu de l'argent qui nous est déjà dû. Et sur les juges, là, le fait que le fédéral va nous consulter, ben, il n'y a rien qui les oblige à tenir compte de notre avis là, dans les nominations. Fait qu'au final, c'est un bilan qui est plutôt nul et je trouve ça drôle là, pour un gars qui a fait 30 ans d'expérience politique de dire
ben, c'est ça.
C'est la faute des Québécois puis tout comme si le vote des Québécois allait se baser.
D'après moi, ça en fâche une couple de Québécois qui se disent « Hey, on avait eu confiance en toi ». Deuxième extrait, Lambert, qu'est-ce que tu veux nous présenter?
Les investissements, l'aide aux entreprises et Northvolt. On part ça.
Regardez, si j'ai un regret, c'est cette perception-là. Parce que les chiffres sont têtus. Quand on compare la croissance économique par habitant du Québec au cours des 7 dernières années, on a battu le reste du Canada. Bon, c'est pas arrivé souvent.
Et l'Ontario aussi.
Et l'Ontario et tout. Sur les investissements qu'on a faits pour aider les entreprises, on a aidé 25 000 entreprises. L'investissement dans Northvolt, c'est 1% de nos interventions, mais c'est peut-être 99% des articles de journaux qu'on a vus.
Ouais, ça, je comprends. Il est souvent revenu avec ça, mais tu sais, il avait présenté Northvolt comme étant la révolution.
Ouais, moi, je l'ai souvent défendu, cet investissement-là. Tu sais, il y a plusieurs endroits dans le monde qui se battaient pour avoir cette entreprise-là chez eux. Et donc, je suis d'accord avec lui que c'est peut-être quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'emphase. Il a également raison de dire que pour soutenir notre modèle québécois, notre filet social, bien, il faut des entreprises qui génèrent de la richesse. Mais là où est-ce que le bas blesse, c'est tout le reste, là, parce qu'il n'y a pas juste Northvolt, il y a eu Recyclage Carbone Varenne, il y a eu Taiga, les Skidoo, il y a eu Lyon Électrique, et plus largement, il y a eu les innombrables bébelles qu'on a promis, particulièrement avant l'élection de 2018, que l'on pense aux espaces bleus, aux paniers bleus, les maisons des aînés qui coûtaient des centaines de milliers de dollars la porte.
Hey, même, on t'a rendu à plus d'un million à la fin de la porte, là.
Bien, c'est ça. Puis là, présentement, on se retrouve dans une situation budgétaire qui est extrêmement difficile alors que quand la CAQ est arrivée au pouvoir. eh bien, il y avait des milliards en surplus. Et là, on va se retrouver dans une situation où les finances sont très serrées. Et toutes ces dépenses-là de bébelles, alors que nos infrastructures tombent en ruine, ben force est d'admettre qu'avec du recul, on est à se questionner. Ben, est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre à tout le moins une partie de cet argent-là pour entretenir ce qu'on a déjà? Moi, je pense que la question se pose. Les prochaines années vont être très difficiles pour le gouvernement qui va suivre. Et rajoute à ça la décote, évidemment, qui a fait très mal. Fait qu'au niveau des finances publiques, oui, on a rattrapé, au niveau de la création de richesses, oui, on a rattrapé le reste du Canada, mais disons que le portrait est plus que mitigé au niveau de la gestion des finances publiques plus largement.
Je pense aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on n'est pas capable de faire. Oui, de rester vigilant, oui, de rester près des tendances puis de ce qui peut nous arriver, mais quand on n'est pas capable de gérer un type de projet, puis je vais donner l'exemple du technologique, de continuer de persévérer à vouloir le faire avant de prendre un pas de recul, d'apprendre de nos erreurs, puis de s'assurer qu'on ne se fait pas charger trop cher aussi pour certains projets. Ça, c'est un problème crucial, gouvernement, non?
Oui, puis partout d'ailleurs, partout... où des gros projets informatiques se font, on en a déjà parlé, comme nos infrastructures physiques, nos hôpitaux, nos écoles sont en désuétude, nos infrastructures technologiques aussi datent d'une autre époque, et souvent les gens qui ont mis ça en place ne sont même plus au gouvernement, on n'a pas d'expertise, c'est vraiment quelque chose qui demeure et qui un énorme défi pour le gouvernement qui va suivre et les prochains.
Lambert Drainville, on termine ta chronique hebdomadaire du mercredi. En une minute, on écoute la dernière clip et tu la commandes.
Qu'est-ce qui vous a pris? Soudainement, rebrasser le troisième lien, dire on va faire un sondage, on va le faire. C'est pas là le début, je veux dire de la fin, là, mais ouais. Vous comprenez ce que je veux dire, que le lien de confiance avec les Québécois, c'est érodé, c'est brisé. Ouais. On n'était plus capable de vous suivre.
Ouais. Ben, écoutez, même à part la pandémie, ça m'est arrivé de changer d'idée. Okay? Ouais. Puis les Québécois appréciaient que je sois capable de me questionner puis de changer d'idée. Okay? Par contre, sur le troisième lien, la recette que François Legault, il n'est pas orgueilleux au point de dire « Moi, je vais défendre à tout prix les positions que j'ai prises. » François Legault, il est capable de se remettre en question puis de changer d'idée. Je pensais que c'était le cas. Mais j'ai été obligé de me rendre compte que non. Là, les gens ont vu ça comme étant « Ils auront une promesse importante. » J'ai plus confiance. » Fait que là, je dis « Ouais, c'est vrai. Il faudrait que j'espère... » Tu sais, c'est ça, là. C'était dur. C'est vrai que c'était un moment dur.
Le fameux troisième lien, Lambert. Un pont, maudite merde! On avait juste à faire un pont!
Oui, il avait promis en campagne électorale. Il a dit que ça allait être une décision politique, puis il s'est empêtré après ça. C'est vrai que c'était une de ses forces en début de premier mandat d'être en mesure de reconnaître qu'il s'est trompé durant la pandémie. Il en a fait bon usage. Mais c'est bien la preuve qu'en politique, c'est une carte de dire que tu t'es trompé, que tu peux jouer un certain nombre de fois, mais qu'au final, tu dois user avec parcimonie, surtout quand l'enjeu est grand et quand c'est un enjeu sur lequel les gens t'ont fait énormément confiance. Ça me fait penser à Paul Saint-Pierre Plamondon et son référendum. C'est pour ça que je pense que M. Plamondon va vivre et mourir avec lui, parce que le fait de changer d'idée lui coûterait beaucoup trop cher. La lecture du PM dans Jean Talon n'a pas été la bonne. Il pensait que les gens lui envoyaient le message « Hey, finalement, on veut un troisième lien », mais le message que les gens lui envoyaient, c'est « Hey, mon homme, t'as brisé ta promesse et on ne te fait plus confiance ». Et pour répondre à ça, il a encore une fois changé d'idée. Ça a été le début de la fin pour la CAQ. Je veux quand même dire merci à M. Legault. Je l'ai fait sur mes plateformes.
Ah oui, moi aussi, je l'ai fait en ondes, il n'y a pas de doute.
Oui, près de 30 ans d'engagement public, il faut lui lever notre chapeau. Puis on refera le bilan plus précisément des bons coups et des moins bons coups quand on aura un plus grand pas de recul sur toutes ces années.
Entièrement d'accord avec toi, Lambert Drainville. Merci beaucoup. On se parle vendredi avec Farnell Morissette à compter de midi.
Vendredi, la gang. Bye-bye.
Salut, Lambert. Lambert Drainville, toujours très intéressant. Il est sur nos ondes à chaque mercredi en chronique hebdomadaire et les vendredis en mode discussion avec Farnell Morissette. Dans un instant, Luc Laliberté vient s'installer avec nous. Point de presse présentement à la Maison-Blanche. On va parler de ce qui se passe dans ce conflit en Iran et de ce cessez-le-feu pour deux semaines.